et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonsoir, bienvenue dans Mardi politique sur France 24. Bonsoir Frédéric Rivière. Nous recevons cette semaine Hubert Vetrine. Bonsoir. Merci Bonsoir. D'avoir accepté notre invitation. Depuis 2003, vous présidez l'Institut François Mitterrand. Il aurait eu 100 ans demain. Vous avez passé 14 ans à l'Élysée, d'abord comme conseiller diplomatique, puis comme porte-parole, puis secrétaire général. Vous avez été aussi après, dans d'autres gouvernements, ministre des Affaires étrangères. Dans un livre, « Les mondes de François Mitterrand à l'Élysée de 81 à 95 », chez Fayard, vous racontez ces années Mitterrand, mais surtout à travers le prisme de la politique étrangère. Un livre qui n'est pas nouveau, mais dont la préface a été réactualisée. Autre actualité, Mitterrand, si je puis dire, c'est la publication chez Gallimard, « Les lettres d'amour et lettres à Anne », le journal pour Anne, deux livres. Des lettres donc de Mitterrand puis son journal donc à Anne Pinjot, la mère de Mazarine. On va bien sûr consacrer donc cette première partie à François Mitterrand, l'homme, le romanesque, le politique, le prince florentin. Et bien sûr, nous parlerons avec vous de politique étrangère puisque vous êtes l'une des plus fines lames en la matière. Alors vous l'écrivez, Hubert Vedrine, François Mitterrand a imprégné votre vie, elle a nourri vos pensées. Donc on va en parler, Frédéric Rivière, à vous l'honneur.
Et dans ce recueil de lettres qui a été publié il y a quelques jours, donc « Lettres à Anne Pinjot », on découvre de très belles choses, des déclarations d'amour tout en nuances, tout en délicatesse, parfois aussi un peu plus volcaniques, franchement charnelles. Est-ce que ces lettres vous ont appris des choses sur François Mitterrand? Est-ce que vous l'avez découvert sous un nouveau jour en lisant ces lettres?
Vous savez, il y a deux choses dans les livres que Anne Pinjot a décidé de publier avec l'accord des enfants. C'est les lettres en question et il y a un journal. Alors sur les lettres, moi j'ai entendu beaucoup de réactions tout à fait diverses. Il y a des gens qui sont un peu gênés par le principe même de rendre public des lettres aussi intimes tout en les trouvant magnifiques. En gros, c'est le dernier grand homme d'État sachant écrire et pas simplement des grands discours mais aussi des lettres. Et puis il y a un journal qui était une chose tout à fait extraordinaire, qui est un journal qu'il a fait, moi je découvre ça comme
avec des collages.
Oui, c'est ça, c'est un journal.
Il mélange l'amour, la politique.
Il raconte ce qu'il a fait tel jour dans la Nièvre, mais il raconte également ce qu'ils ont fait ensemble un autre jour en allant au cinéma ou en se promenant au Luxembourg. Et puis il colle les tickets de cinéma, les billets d'entrée, le menu du restaurant. C'est absolument fascinant, cet objet. Et c'est assez inspiré par des collages ou des peintres des années 20 et 30, enfin de la jeunesse de François Mitterrand.
Mais sur les lettres, vous avez appris des choses?
J'ai pas lu les lettres encore.
Aucune.
J'ai regardé un peu le journal. Mais comme je suis en train de préparer le centenaire de François Mitterrand qui a lieu demain et qu'il y a énormément de choses à organiser, et puis il y a des colloques, et puis une exposition, il y a une librairie, enfin, il y a plein de sujets. J'ai pas encore lu, je lirai après. Mais j'entends les réactions de gens. Certains disent donc, je suis un peu gêné, c'est pas évident, et en même temps.
Oui, une forme d'indécence, d'impudeur.
J'irai pas jusque-là, mais bon, certaines personnes sont gênées. Mais j'entends beaucoup plus de réactions qui disent, ça a bouleversé ma vision du personnage, qui est encore plus immense, complexe, divers que ce que je pensais. C'est une écriture magnifique, c'est un individu dont on n'arrivera jamais à faire le tour. Donc je connais des gens qui ont passé leur vie à critiquer Mitterrand sur le plan politique et qui sont bouleversés par ça.
Mais pour poursuivre la question...
Moi, je n'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous dire, je ne sais pas.
Pour poursuivre la...
On en est à 300 ou 400 livres sur Mitterrand, quand même.
Oui, mais alors...
Il y a une fascination qui s'exerce toujours, en positif ou en négatif. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont déjà connues, mais... C'est encore tout un pan de cet homme qui apparaît.
Justement,
ça va changer le regard de beaucoup de gens, en fait.
Oui, mais d'ailleurs, le livre est peut-être fait pour ça, hein, dans le fond.
Je ne sais pas, faudrait demander.
C'est peut-être un testament un peu littéraire, mais pour revenir.
Ah non, c'est pas un testament, puisqu'il écrit tout du.
Un testament. De toute façon, découvrir l'homme, qui est quand même ce que vous découvrez. Alors, est-ce que vous le découvrez, vous qui avez travaillé avec lui?
Il n'y a aucun rapport d'avoir travaillé avec lui, même si.
Justement, laissez-moi finir ma question.
Très ami à l'origine, bon.
Mais est-ce que ce romantisme échevelé, parce qu'on découvre un François Mitterrand...
Échevelé, non, parce que c'est une écriture très... je connais son écriture, et il y a des biographes qui avaient déjà publié d'autres lettres, correspondant d'autres périodes de sa vie. C'est une écriture très très dense. Hein. C'est pas.
Non, c'est bien pas sûr, mais c'est magifique. Hein.
C'est
mais donc, ce romantisme,
on va dire.
C'est un
grand écrivain, en plus.
Oui, tout à fait.
Oui.
Dans le fond, même s'il a fait deux mandats, la politique n'était qu'une facette de sa vie. Quand il écrit à Anne Pinjot, T'aimer en soi est une œuvre passionnante.
Oui, ça montre que cet homme qui a incarné le pouvoir, qui était un homme politique important pendant 50 ans,
oui.
Qui était le président de toutes les républiques, qui a fait le mandat le plus long, 2 fois 7 ans.
Qui est resté le plus longtemps au pouvoir. Ouais.
Sans précédent, dans les 5 républiques. Yeah. Bon, cet homme-là qu'on assimile à la politique, et puis il a une sorte de magicien de la politique. On voit bien l'ascendant qu'il exerçait ou la fascination sur des dirigeants de gauche ou de droite et même ceux qui l'ont
pourquoi cette fascination
sans...
Vous vous souvenez de cette petite phrase dans
c'est
les Tontons Flingueurs, Claude Riche qui dit « Je ne séduis pas, j'envoûte ». Est-ce qu'il y avait un envoûtement Mitterrand? Vous parlez de fascination, vous l'avez dit plusieurs fois. Vous en avez été victime, entre guillemets, de cette fascination, envoûtement Mitterrand?
Le terme victime est impropre.
Oui, bien sûr.
Et tout le monde l'a constaté.
Je dis ça avec un sourire, entre guillemets.
Parler de charisme, plutôt.
On peut être victime d'un envoûtement.
Et encore maintenant, quand je voyage, je rencontre des dirigeants qui ont une façon de parler de Mitterrand comme si c'était un élément qui avait bouleversé leur vie. Quand je vois Gorbatchev, régulièrement, il me parle de Mitterrand, mais c'est incroyable. J'ai continué à voir Kohl assez longtemps après la fin du mandat de Kohl. C'est extraordinaire la façon dont il en parlait.
Alors qu'il a failli le lâcher, Gorbatchev, comme avec Yanaïev.
Alors là, je vous renvoie, on n'a pas le temps, mais je vous renvoie aux historiens, justement.
Mais est-ce que ça n'est pas aussi...
Les historiens ont liquidé à peu près toutes les controverses, même si on a des nouvelles, notamment sur les choix européens, mais ça, c'est tout à fait exact.
Ce prestige, Hubert Védrine.
Bon, puis récemment, j'ai été invité par le président tchèque, parce qu'il y avait un buste Mitterrand qui voulait inaugurer, en souvenir du petit déjeuner où il y avait Havel. Il y a un colloque Mitterrand à Moscou, il y a une place Mitterrand à Varsovie, il y a un lycée Mitterrand à Brésil. Enfin, il y a plein de choses qui sont restées très, très puissantes. Il y a aussi des gens très, très hostiles. Il y a eu, au début de l'année, sur une autre chaîne, une sorte de documentaire qui a rassemblé toutes les attaques, toutes les choses les plus haineuses, un mensonge par phrase. Bon, donc il y a des gens qui sont encore motivés par ça. Ce qui survit à tous, c'est la fascination.
Ouais,
mais je n'ai pas de réponse simple à votre question.
Ce prestige, oui. Hubert Védrine, ce prestige de François Mitterrand, est-ce qu'il ne tient pas
président,
à un effet de contraste avec ceux qui l'ont suivi?
Non. Non, parce que c'était
bien sûr,
déjà
parce
vrai.
Que
c'était déjà vrai
notamment Nicolas Sarkozy et François Hollande ont quand même assez largement désacralisé la fonction.
Oui, mais de toute façon, vous ne m'entraînerez pas sur le terrain des comparaisons.
Non,
parce qu'on ne peut pas comparer.
Pourquoi?
C'est tellement, parce que tout est différent.
Il y a un basculement dans le siècle, déjà.
L'état de l'Europe, l'état de la France, l'état de la politique, l'état de la communication, le rythme de la communication.
Et ça a une incidence sur la fonction?
Oui, le raccourcissement, passer de 7 ans à 5 ans. Quand vous avez un mandat de 7 ans, tous les parlementaires savent que peut-être ils vont disparaître dans 5 ans. Le président, non. De toute façon, il est automatiquement au-dessus. Alors, si en plus il a une personnalité énorme, il est encore plus au-dessus. Donc, les comparaisons, est-ce qu'on va comparer De Gaulle et Sarkozy? Ça n'a pas de sens, tout ça, vous voyez.
Non, mais par exemple.
Donc, il faut juger chacun dans son époque.
Non, mais.
Et il ne faut pas trop s'éloigner de Mitterrand, parce que ce qui est frappant, c'est qu'il reste une source d'inspiration. Il y a des morceaux de Mitterrand qui sont des sources d'inspiration.
Oui, mais est-ce qu'on pourrait dire que François Mitterrand, qui a été forgé à la bourgeoisie de province, pétri de culture, d'art, de lettres, François Hollande, lui, c'est la com. Et est-ce qu'on ne pourrait pas à un moment les comparer quand en 81, François Mitterrand arrive au pouvoir après des décennies pour la gauche de désert politique, on se dit, est-ce que François Mitterrand va être à la hauteur? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on s'est posé la même question en 2012 sur François Hollande et on se la pose
pourquoi
toujours.
Pourquoi vous revenez aujourd'hui alors qu'on est censé parler de François Mitterrand? Encore une fois, est-ce que vous comparez?
C'est lui qui a ramené la gauche au pouvoir, notamment.
Oui,
c'est intéressant de savoir comment agissent ses successeurs.
Jospin a gouverné pendant la cohabitation. J'étais dans son gouvernement. Donc on pourrait également comparer à ça. Est-ce que vous comparez Sarkozy ou Chirac avec le général de Gaulle? Ça ne nous mène pas très loin. Il faut comparer les gens dans leur époque. Donc regardez les gens...
Donc vous êtes d'accord, c'est deux hommes qui ne sont pas du même siècle, forcément.
C'est pas une question de numérotation des siècles, c'est une question de contexte.
C'est ce que j'entendais par là, bien
etc. Donc on peut pas, il faut comparer les dirigeants actuels entre eux.
Alors on va faire une autre comparaison. Si je sais que vous voulez pas qu'on vous entraîne sur ce terrain-là, on va faire une comparaison.
Vous posez en la
revanche,
que vous voulez.
En revanche économique, c'est-à-dire par exemple le tournant de la rigueur de 83. François Mitterrand ne l'avoue pas, ce tournant de la rigueur. François Hollande, quand il fait son tournant libéral, au bout de 2 ans de quinquennat, il ne l'assume pas. Est-ce que là, vous pourriez dire qu'effectivement, il y a soit des références, soit des rapprochements. Chacun a voulu couper avec le marxisme et l'un l'a pas avoué, l'autre l'a pas assumé.
Là aussi, c'est des comparaisons tirées par les cheveux, en fait. Mais ce qu'on peut avoir en tête, c'est que quand la gauche est au pouvoir, hein, en France ou ailleurs, mais un peu plus en France qu'ailleurs, on retrouve toujours, quelles que soient les époques, vous avez raison, la même opposition entre une partie de la gauche qui veut s'adapter au monde réel, qui est une économie globale de marché, plus ou moins régulée, pas assez, à mon avis, et ceux qui veulent refuser absolument ça, et qui veulent continuer une ligne de gauche classique qui est fondée sur la redistribution. Sur
classique, la... pas archaïque.
Archaïque, mais enfin... Ah,
non, mais voilà, libre. C'était pour vous l'entendre dire.
Mais classique est devenu archaïque parce que, comme il y a cette évolution du monde, qu'à peu près tous les pays développés ont fait des réformes, y compris sous la conduite des sociodémocrates, à peu près partout, même en dehors de la zone euro, donc il se crée un décalage. Donc la gauche a plus de difficultés dans l'exercice du pouvoir, parce que une partie des gens de gauche au départ, et c'est leur noblesse de démarche, ils refusent le monde tel qu'il est parce qu'ils le trouvent injuste. Donc ils veulent le corriger, donc ils ont toujours un problème philosophique avant d'être politique, en disant « si je m'adapte trop, je perds ma raison d'être ». Et on retrouve ça dans tous les gouvernements de gauche, quels qu'ils soient, à tous les moments. Et quand vous avez une orientation clairement en compte, comme par exemple quand Schröder fait les réformes, qu'à mon avis, on aurait dû faire aussi en France, il faudra les faire un jour ou l'autre, à ce moment-là, vous avez une partie...
On les a pas amorcés ?
Une partie de la gauche qui se détache. Et en Allemagne, ça donne Die Linke.
Et en France, donc, les frondeurs.
Tous les... Voilà, par exemple.
Encore Mélenchon.
Un petit peu de réformes, pas beaucoup. Enfin, il y en a pas eu zéro. Bon. Donc c'est compliqué. C'est plus compliqué pour les gens de gauche de gouverner, surtout dans des époques où les sociétés sont devenues ingouvernables, encore moins réformable, c'est un peu plus compliqué que des gens qui ne voudraient pas changer. Là, il y a un point de comparaison, mais après, comparer 83, le programme commun, l'union de la gauche, il n'y a même pas encore la monnaie unique. Non, je parle de 83.
Oui, oui.
Comparé à des choses qui se passent en 2012 et après, encore une fois, c'est pas... la comparaison ne mène pas très loin.
Qu'est-ce que vous mettriez à l'actif ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier ? Si je vous demande ce que vous mettez à l'actif de François Mitterrand.
On ne peut pas résumer, encore une fois, c'est 50 ans de vie politique,
non,
14 ans de présidence.
Voilà, sur ces 14 ans de présidence.
Non, mais justement, c'est la durée. C'est qu'avant Mitterrand, l'idée que la gauche arrive au pouvoir n'est pas évidente. Il n'y a pas eu d'alternance
voilà,
avant lui.
Une réponse, la durée.
Avant qu'il ait eu l'audace d'imaginer cette stratégie incroyable du nom de la gauche, quand le Parti communiste, le plus stalinien d'Europe, avait plus de 20% des voix et qu'il invente une stratégie pour faire une alliance dont il sera vainqueur. C'est inimaginable quand on y repense. Donc il a complètement pulvérisé le fait que la gauche arrive au pouvoir par accident, pour pas longtemps, repartait, après avoir tout raté. Ça, c'est extraordinaire comme acquis. C'est d'ailleurs pour ça que la Ve République a été consolidée après. Parce que tant que c'était que le général de Gaulle et ses successeurs, on pouvait se dire, le jour où la gauche arrive, ils vont tout mettre par terre. Bon, non, il y a une sorte... Il y a une partie de continuité, puis une partie de changement.
Alors j'ai une question un peu perfide. Qu'est-ce que François Hollande...
C'est le cas depuis le début, non ?
Je n'avais pas l'impression, mais on y va en douceur. Qu'est-ce que François Hollande pourrait envier à François Mitterrand ?
Écoutez, le mieux, c'est que vous écoutiez ce qu'il va dire demain. Puisqu'il va conclure la journée que nous consacrons à François Mitterrand, à ce centenaire, sous la pyramide du Louvre.
C'est mais je pensais que vous alliez me répondre la durée à nouveau.
Non, mais qu'est-ce que vous me demandez de dire ce que va dire Hollande ? J'en sais rien.
Je pensais que vous alliez me dire à nouveau la durée au pouvoir.
Vous êtes retors.
A dit que sa question était retors.
Oui, mais votre.
Moi, je vous réponds avec simplicité et franchise. Donc, je vous conseille d'écouter ou de lire
ce
que François Hollande va dire demain en conclusion de cette journée.
Alors, chaque président, les rois, bien avant, avaient leur chroniqueur. Vous vous souvenez très
bien. Et Mitterrand a relu d'ailleurs dans sa longue présidence les biographies de tous les rois.
Ouais.
Il avait organisé magnifiquement le bicentenaire de la Révolution, 89, mais il a été assisté au millénaire capétien.
D'accord. Ouais.
Donc il avait un sens exceptionnel de la durée, avec cette liberté qui était la sienne, venue d'une culture de droite, ayant été vers la gauche. Donc il, qu'à un moment donné, il était devenu un élément de l'identité de la France, en fait.
Oui, il fusionnait avec la France.
Et à un moment ou à un autre, il y a eu des gens très pour lui, très contre lui, bien sûr. Mais à un moment ou à un autre, tous les Français se sont reconnus en lui à un moment ou à un autre.
Alors, Mitterrand donc avait ses chroniqueurs, on se souvient de Pierre Favier, Michel Martin Roland et les quatre tomes hein, de la décennie Mitterrand. Et dans ses livres, il y avait des confidences de Mitterrand. Meignery est un con, il n'est pas borné, c'est une borne, et Debré, c'est un crétin. Voilà, donc aujourd'hui, on reproche à François Hollande d'avoir fait ses confidences à deux journalistes du Monde, Davet et L'Homme, sur les juges, sur un tel ceci, sur sa vie privée, etc. Mais on oublie que François Mitterrand, alors c'est vrai, il l'avait fait après, mais est-ce qu'on peut lui faire ce... Est-ce que c'est un bon ou un mauvais procès qui est fait aujourd'hui à François Hollande, qui est lâché dans le fond par ses derniers partisans ?
Je ne suis pas venu pour commenter ça, hein.
Mais vous pouvez vous... Oui, non, mais on va parler de politique. Non, mais
vous n'avez pas un mot à dire sur ce bouquin, tout le monde en parle.
Attendez, ça peut flinguer sa fin de quinquennat, Hubert Védrine, vous ne pouvez pas le nier. Tous ces derniers partisans l'ont lâché.
C'est votre point de vue, oui.
Non, c'est la vérité. Non,
mais on n'est pas venu, je ne suis pas là pour parler de cette période du quinquennat de Hollande.
Non, mais ça veut dire que
vous considérez que ce livre n'est pas digne d'intérêt.
Non, je ne l'ai pas encore lu.
Oui, mais bah, parce que vous ne considérez pas digne d'intérêt.
Non, c'est que j'avais autre chose à lire avant. Je m'occupe du centenaire qui a lieu demain. Ouais. Il y a 1000 choses à organiser. J'ai 30 ou 40 livres en retard de littérature, d'histoire, de biographie, de géopolitique, etc. Je le dirai à un moment donné.
Mais fouetter, quoi.
Mon réflexe n'est pas de lire en priorité les livres.
Vous nous avez parlé de la fascination de François Mitterrand. On va, alors, si vous voulez rajouter dans le fond. Puisqu'on va clore cette première partie, on va parler de politique. Mais oui, ça passe vite.
Vous savez qu'il y avait 1000 choses à dire sur Mitterrand.
Mais allez-y. Alors vous avez carte blanche. Vous avez carte blanche, Hubert Védrine.
Posez-vous les questions qu'on ne vous a pas posées.
Alors, quelles sont les questions qu'on aurait dû vous poser et auxquelles vous auriez dû répondre ?
Il reste du temps après. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que sous Mitterrand, on passe de la fin de la guerre froide, le monde bipolaire, et on bascule... Alors, est-ce que c'était bien géré ou pas ? C'est une des questions depuis 25 ans. Dans le monde global. Oui. Et on est toujours dans les convulsions du monde global. Donc, est-ce que Mitterrand, Gorbatchev, George Bush père, les Anglais, Kohl, etc., est-ce qu'ils ont bien géré ce passage ? Alors qu'en Europe, pendant des décennies, on avait été épouvanté par cette perspective du changement de statut en Europe de l'Est. Et on craignait même une guerre, vous voyez ? Et finalement, ça a été merveilleusement géré. Alors que la désintégration de la Yougoslavie, malheureusement... n'a pu être géré par personne, ni les Yougoslaves, ni les Européens, ni les Américains, etc. Donc il y a un grand moment. D'autre part, dans la période...
Et on le doit à Mitterrand, le fait que ça a été merveilleusement géré.
Entre autres.
Géré.
Entre autres. George Bush père, Kohl, enfin beaucoup de gens. Gorbatchev, qui est un personnage énorme, sous-estimé, détesté par les Russes, parce que il l'assimile à la fin de l'URSS. D'autre part, dans la période, je crois, très intéressante, il y a la guerre du Golfe, qui est la première des interventions nombreuses de l'Occident depuis 25 ans, et c'est la moins contestable.
Mais il n'hésite pas, on en a parlé, on a évoqué, il n'hésite pas un moment, Mitterrand, quand il y a un coup d'État qui est naïf, et François Mitterrand est prêt à je me souviens du dessin de Plantu dans Le Monde, où François Mitterrand commence à écrire « Cher Yanaïef », et il raye, et finalement « Cher Gorbatchev », parce que finalement le coup d'État a échoué.
Peut-être que Plantu, pour une fois, était mal inspiré. Ce qui s'était passé, c'est que... comme on était inquiet sur ce point précis, on était inquiet par le fait que les Poutchites puissent porter atteinte à la vie du Gorbatchev et de Yeltsin. Et on a eu plein d'appels de beaucoup de gens, dont Mme Carrère d'Encausse, dont Elotstein, beaucoup de diplomates, faites attention. Et comme les Poutchistes ont fait une circulaire, qu'ils ont envoyée à Kohl, à Mitterrand, etc., en disant on ne portera pas atteinte à leur intégrité physique, on s'est dit. L'équipe de Kohl et l'équipe de Mitterrand, on s'est dit qu'il faut rendre ça public tout de suite. Il n'y avait aucune reconnaissance de rien. Simplement, on voulait les rendre prisonniers de leurs promesses. Et donc, François Mitterrand, parce qu'il était à Paris ce jour-là, l'a dit à la télévision. Et la chancellerie à Bonn a fait un communiqué pour dire exactement la même chose que ce qu'a dit Mitterrand.
D'accord.
Point. C'est tout. Donc, c'était pour les protéger. Et d'ailleurs, ça n'a jamais entamé la relation entre Mitterrand et Gorbatchev, qui a continué jusqu'à la fin.
C'était une mauvaise interprétation.
Y compris après, quand Gorbatchev n'était plus au pouvoir, et Mitterrand l'a invité dans les Landes, l'a invité à Latch, l'a invité à Cluny, etc. Donc, c'est un exemple intéressant où on a perdu la bataille de la communication. Sinon, vous ne poseriez pas cette question, mais je crois que c'était infondé.
D'accord.
Mais vous savez, dans le livre, je cite aussi ce qui n'a pas marché, hein. L'idée de confédération, il y a plein de choses. Puis la politique économique, on peut débattre sans fin. Je veux dire, est-ce que la gauche ne pouvait pas avoir une approche plus pragmatique et moins idéologique de 80 à 83 ? En même temps, dans la gauche aujourd'hui, il y a des gens qui regrettent cette période. et oui. qui regrette encore ce qu'on appelle le tournant de 83, qui est un tournant réaliste. Donc on tombe pas sous la coupe du FMI. Mmh. Donc je n'ai pas une présentation rose-bonbon. Hein.
Alors le monde d'après, donc le monde global, on va en parler dans 5 minutes. On se sépare un instant et on se retrouve juste après un tour d'horizon de l'actualité. À tout de suite.
RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique sur France 24 et RFI en compagnie de Frédéric Rivière et notre invité Hubert Védrine. Donc on va parler de politique étrangère dans cette deuxième partie. Donc les ministres de la Défense de la coalition qui lutte contre Daesh sont à Paris. On ne sait pas quand la ville de Mossoul, la deuxième ville d'Irak à majorité sunnite, mais composée de Turkmènes, Kurdes, Arabes, chrétiens, complexe, hein, quand est-ce qu'elle sera libérée. Donc cette ville qui est très complexe, hein, tout comme la coalition, d'ailleurs. Et la question, la seule question qui vaille, c'est le jour d'après, qui va contrôler cette ville? On écoute François Hollande et on en reparle.
L'enjeu, c'est l'avenir politique de cette grande ville, de la région et de l'Irak. Et les pays de la coalition sont aussi là pour aider à la mise en place d'une gestion qui inclura toutes les composantes qui constituent la population de Mossoul. Tous les groupes ethniques, tous les groupes religieux devront être représentés. Et la paix tant attendue sera alors au rendez-vous.
Voilà, ce seront les Irakiens qui décideront où il y aura ce qu'on appelle une sorte d'interventionnisme politique.
Les Irakiens ne peuvent pas décider tout à fait seuls, parce qu'il y a l'influence iranienne, l'influence turque, l'influence américaine qui joue le rôle essentiel en soutien de la reconquête de Mossoul.
Ouais, enfin, avec les Turcs, c'est tendu en ce moment.
Justement. Oui. Mais en tout cas, ce n'est pas les Irakiens seuls. Donc je trouve ça bien que la France, qui joue un rôle, disons, marginal, même s'il est respectable dans l'affaire d'Irak, alors que la France joue un rôle au Sahel qui est déterminant. Mmh. À cet égard, la décision de François Hollande dans l'affaire du Mali était remarquable, rapide, efficace, etc. Au Moyen-Orient, c'est un
peu différent. Suivi d'un processus politique.
Oui, alors au Moyen-Orient, c'est un peu différent, mais le fait de dire ça maintenant nous permet peut-être de rentrer dans le jeu, alors que pour des tas de raisons, on s'est trouvé notamment dans l'affaire de Syrie, finalement hors jeu, quoi. Mmh. À partir de positions honorables sur le plan déontologique.
Oui. Mais quelle est la portée de ce propos si le rôle de la France est marginal?
Parce que personne n'a de solution tout à fait claire sur la suite. Et faire en sorte que dans l'Irak de demain puissent à nouveau cohabiter les chiites majoritaires qui gouvernent mais qui ont été sectaires contre les sunnites pour se venger, et les Kurdes qui veulent garder un maximum d'autonomie, etc. La France alors peut se retrouver dans un de ses rôles historiques qui est l'ingénierie d'idées. La France inventeur, la France a apporté beaucoup à la création du système ONU, multilatéral, européen, etc. Donc il y a un rôle possible pour la France. Alors après, oui, bien sûr, il faut partir de ce que dit le président, c'est-à-dire la cohabitation nécessaire en sécurité. Il faut que les différents groupes se sentent assez en sécurité pour accepter de revivre ensemble. Mais la France peut avancer des idées, faire des propositions. Et je ne vois pas pourquoi les autres refuseraient, même ceux qui ont des positions antagonistes. Mmh. Les Américains n'ont pas raison de refuser des idées françaises, ni les Russes. Donc là, il y a un vrai rôle à jouer. Je ne sais pas si ça va marcher.
Ouais, c'est très compliqué. Ça paraît assez utopique quand on...
Non, mais c'est bien d'essayer. Ouais. Il y a plein de choses utopiques. Quand on parle de la paix au Proche-Orient, Israël, Palestine, oui.
Non, mais là, les Turcs rentrent dans le jeu et c'est pas chose...
C'est inévitable que les puissances autour... Mais vous savez, dans le Moyen-Orient, désagrégation, aucune des puissances de la région ne peut imposer complètement son plan. Ni l'Iran, ni la Turquie, ni Israël, ni l'Égypte, ni l'Arabie. Mais chacune peut un peu bloquer les autres. Mm-hmm. Donc un pays de l'extérieur, mais qui n'est pas en position de domination ou d'hégémonie, qui a des idées sur l'avenir de l'Irak... demain ou après-demain, sur l'avenir de la Syrie. Ça peut jouer un rôle utile.
Quelle est la solidité de cette coalition-là, dans laquelle il y a vraiment des rivalités qui ne demandent qu'à éclater?
Oui, mais c'est mieux qu'une absence de coalition.
Oui, donc, mais enfin, si aujourd'hui, les États-Unis s'inquiètent des tensions très fortes.
Non, mais c'est normal, ils s'inquiètent de la suite.
Les Turcs et les miliciens envoyés par l'Iran.
Oui, si les désaccords avaient été tellement puissants, il n'y aurait même pas de convergence des coalitions. Il n'y a peut-être même pas une coalition, mais deux ou trois, en fait. Il y a suffisamment de convergence pour que la récupération, la reconquête de Mossoul soit en route. Puis demain, celle de Raqqa. Vous voyez que les ministres de la Défense réunis se préoccupent.
Les divisions ne peuvent pas faire capoter l'opération vers Mossoul.
Si les divisions étaient tellement fortes, il n'y aurait pas eu d'opération. Donc il faut partir du fait qu'en dépit des divisions que l'on connaît, en dépit du fait que les militaires disent depuis longtemps nous on peut mener cette mission à bien, mais qu'est-ce qu'on fait après comme solution politique ? La coalition existe quand même. Il y a une convergence de facto entre les différentes forces. Tout le monde sait qu'il y a un problème après. Qu'est-ce qui gouverne Mossoul ?
Eh oui.
Et est-ce que les intérêts des uns et des autres sont respectés ? Je trouve que la France est dans son rôle, même si elle n'a pas les leviers essentiels en main, comme personne ne les a non plus.
Ouais.
Donc c'est pas mal que la France essaie d'anticiper, d'inventer, de proposer. Mais tout ça suppose qu'on se mette d'accord avec des pays avec lesquels on n'a pas forcément envie de travailler. Dans le cas d'espèce, il faut accepter un rôle des Iraniens et des Turcs.
Ouais.
Donc, beaucoup de choses à reprocher aux Turcs. Dans l'affaire de Syrie, on n'y arrivera pas sans une sorte d'accord avec les Russes.
Alors,
réalité du monde. Hein.
Bien sûr.
Ou alors, on dit que c'est trop compliqué, donc on ne va même pas tenter, mais ce n'est pas non plus une option, ça.
Sur la Syrie, justement, et l'actualité, bien sûr, c'est cette ville déjà appelée martyre. Hein. On parle déjà de crimes de guerre, donc bombardée par les troupes de Bachar et son allié Vladimir Poutine. Vous appartenez, vous, à l'école réaliste en matière de politique étrangère. Alors, si vous êtes réaliste, est-ce que vous répondez à la question « Faut-il rejoindre le camp syro-russe pour lutter contre l'État islamique ?» Vous dites...
Non, je ne dis pas ça. Et, de toute façon, il n'y a pas d'autre école que l'école réaliste en politique étrangère.
C'est bien pour ça que ça mène ma question.
Les écoles irréalistes s'effondrent. Ça ne marche pas. Toutes les écoles utopiques, chimériques, ça ne marche pas au bout du compte. Donc la réalité rattrape tout le monde. Dans le cas d'espèce, c'était une erreur à l'origine de penser d'abord de ne pas écouter les minorités chrétiennes de Syrie et du Liban qui disaient c'est un régime cruel, mais le suivant sera pire.
Oui.
Donc on a trop cru, je comprends pourquoi, mais on a trop cru que les gentils démocrates syriens étaient en mesure de prendre le pouvoir après une chute d'Assad. C'est une erreur partagée par tout l'Occident. Après, on a fait collectivement une erreur en croyant que les Russes allaient laisser tomber la Syrie. C'est évident depuis le début que non. C'est leur dernière emprise à l'extérieur.
Oui.
C'est très important. Il y a des bases. Il y a plusieurs dizaines de milliers de familles mixtes. Il y a la filière djihadiste russophone de Raqqa qui veut contrôler par un régime ami, etc.
Bon, donc on ne les rejoint pas.
Comment ?
On ne les rejoint pas.
Le réalisme ne nous amène pas à ça. On n'est pas obligé d'approuver ce régime qui est par ailleurs un régime de psychopathes aussi.
Oui. Bon, on réouvre une ambassade à Damas ?
Alors là, pour le coup, je trouve qu'on n'aurait jamais dû la fermer parce qu'on confond une fait d'avoir une ambassade, ça ne veut pas dire qu'on approuve ce que fait le régime. Mais je pense qu'on n'évitera pas une sorte d'accord réaliste, et réaliste à la Kissinger, vous voyez, avec Poutine. On peut être furieux contre lui, on peut avoir peur de lui, on peut penser qu'il faut le dissuader, être plus fort et tout ce qu'on veut, mais à un moment ou à un autre, il faut accepter qu'il soit dans le jeu, sinon nous, on n'y sera pas. C'est d'ailleurs ce que les Américains tentent.
Mais Hubert Védrine, vous dites qu'il n'y a pas d'autre école que l'école réaliste, mais est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas une école manichéenne, au fond
Oui, mais
vision trop
pas.
Simpliste, le bien, le mal, les gentils, les méchants.
Mais ça ne marche pas.
Mais c'est ce qui est à l'œuvre dans bien des cas.
Oui, c'est ce qu'a fait d'ailleurs ce qu'ont fait les États-Unis sous George W. Bush. Mais au bout du compte,
ça n'est pas un peu ce qu'a fait la France aussi.
On peut regretter qu'il y ait une certaine influence de ce qu'on appelle le courant néoconservateur américain, une vision occidentaliste des choses qui ont conduit une qu'Obama n'a pas eu. Il a été élu pour faire l'inverse, donc il s'est mis en retrait, ça a été critiqué, mais c'est vrai qu'il y a une vision binaire, simpliste, occidentaliste, dont on voit les effets négatifs. C'est une approche qui a échoué. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas des écoles idéologiques, binaires, manichéennes, chimériques. Il y en a beaucoup. Mais je dis qu'au bout du compte, ça ne marche pas. Et donc, on est bien obligé de voir que même en partant de principes moraux tout à fait respectables, on s'est auto-marginalisé. Et que si on veut rentrer dans le jeu, il faut admettre que les Russes, que cela nous plaise ou pas, soient essentiels dans ce jeu. Même Obama est obligé de laisser Kerry tenter de négocier jusqu'à ce qu'il y ait une suite. Donc, ce qui est en train d'être fait, à juste titre, par la France sur l'avenir de l'Irak... Je pense qu'on doit le refaire de façon encore plus nette sur la Syrie, mais ça suppose qu'on accepte de parler aux Russes.
Ouais, alors, voilà. Bah, ouais.
Et voilà. Leur parler correctement.
Correctement.
Parce qu'il a les clés du jeu. Il a les clés de la partie.
Quoi qu'on pense de lui, il a les clés, oui.
Alors, ouais. Justement, repartant sur l'idée réaliste hein, que vous incarnez, le réaliste, Bachar al-Assad contrôle l'ouest du pays, 80% donc de la population.
Ils vont reconquérir toute la Syrie non désertique.
Voilà. Alors, est-ce qu'un réaliste dirait que Bachar al-Assad a gagné contre les rebelles?
Pour le moment, le réaliste dit que la Russie a empêché la chute de Bachar al-Assad. Maintenant, Bachar al-Assad est tellement dépendant des Iraniens et des Russes, et les Russes ne sont pas enchantés, qu'ils dépendent également beaucoup des Iraniens, que ce n'est pas une victoire d'Assad tout seul, en fait. Donc le réaliste se dit aujourd'hui...
C'est syro-irano-russe.
Qu'est-ce que la Russie va faire de cette victoire? Poutine a fait un retour dans le jeu en disant « la Russie paye à son, c'est terminé ». Donc je suis là, il emploie des procédés que nous détestons pour réimposer sa présence dans le jeu, mais qu'est-ce qu'il va en faire? Peut-être que les Occidentaux pourraient tenter de reparler avec lui, mais non, puisque vous avez les clés, vous ne pouvez pas simplement avoir une victoire militaire, ça va conduire à quoi en fait?
Vous posez dans votre livre une question.
Il pourrait jouer un rôle important qui retransformerait son image et celle de la Russie. Là-dessus, la France peut parler.
La France devrait parler
aux Iraniens et aux Saoudiens. Enfin, il y a beaucoup de choses que la France peut faire, même quand elle n'a pas les clés principales.
Frédéric, je voulais en finir là-dessus, mais vous posez deux questions dans votre livre. Vous dites la première, les Européens et les Occidentaux ont-ils eu une politique intelligente vis-à-vis de l'URSS, quand elle s'est effondrée, la nouvelle Russie. Et deux, Poutine est-il dangereux? Est-ce que vous avez trouvé des réponses à vos questions?
Dans les 25 dernières années, ça commence donc dans la période Mitterrand, ce que je raconte, la fin de l'URSS, Gorbatchev, la suite, etc. Comment Kohl et Mitterrand essaient plutôt d'aider Gorbatchev. Mais les anglo-saxons disent non, ils ont perdu. Vae victis.
Mitterrand comprend jusqu'où Gorbatchev ne peut pas aller trop loin, en quelque sorte. C'est ce que vous avez dit.
Il pense, en gros, que ce que fait Gorbatchev est dans notre intérêt. Ouais. Il pense qu'il est sincère. Il comprend très vite que Gorbatchev n'emploiera plus la force pour maintenir les régimes en Europe de l'Est.
Et aujourd'hui, la France ne sait pas comprendre Vladimir Poutine?
Alors, ça commence à longtemps. Parce que Poutine, dans les deux premiers mandats, c'était moins compliqué de travailler avec lui. Moi, je l'ai rencontré souvent comme ministre. Ouais. Bon, il faut distinguer le Poutine troisième mandat de ceux d'avant. Et quand Poutine fait le retour en disant maintenant...
C'est une revanche aujourd'hui, en quelque sorte?
Il y a une revanche, mais pas personnelle. Il y a une revanche sur ce qui était ressenti par les Russes comme une humiliation. Ouais. Mais maintenant, ça va. Il a effacé l'humiliation. Il a 70% de popularité. Quand il récupère la Crimée, c'est 80%. Bon, ça va. Il pourrait se permettre, si certains dans le monde arrivent à lui parler, mais je ne sais pas s'il écoute Hollande ou Merkel ou Obama, ou peut-être personne pour le moment. Donc il pourrait y avoir une sortie par le haut, quelles que soient les horreurs insupportables de la guerre civile en Syrie. Donc c'est pas complètement fermé, le jeu n'est pas fini, mais il faut qu'on ait le réalisme d'accepter qu'on repart d'un jeu et qu'on n'a pas grand-chose en main, mais on n'a pas rien non plus. On est toujours membre permanent, enfin il y a des choses que l'on peut faire. Regardez, récemment, la France a eu un succès magnifique avec l'élection du secrétaire général des Nations Unies. Monsieur Guterres, qui est formidable.
Oui,
en plus, il est francophone, francophile, il est très bien. Et il y avait tout un groupe contre lui, au début les Russes, Madame Merkel, je ne sais pas pourquoi. Bon. Et donc, la France a des cartes encore, aujourd'hui.
Je voudrais qu'on dise un mot des États-Unis, et je voudrais qu'on parle de l'Europe si on a le temps. Bon, il est probable que Hillary Clinton gagne cette élection. Elle appartient à une école plus interventionniste que qu'Obama. À quoi pourrait ressembler une des États-Unis, enfin l'Amérique, en termes de politique étrangère, avec Hillary Clinton?
D'abord, je pense que même si elle écrase Trump, ce qui est probable, et il aura peut-être quand même 42, 43, 44% des Américains qui auront voté pour lui. C'est extraordinaire compte tenu de son agressivité, de sa vulgarité, de tout ce qu'on a vu. C'est extraordinaire qu'elle n'ait pas 20 points d'avance sur lui.
Mais c'est extraordinaire qu'il ait survécu jusque-là,
Hubert Védrine. Oui, c'est ça.
Mais ça dit quoi, ça, de la société américaine ou de l'état du monde?
C'est pas des fascistes, les gars qui votent pour lui. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'électeurs américains tellement furieux contre la mondialisation. Là-bas, c'est pas l'Europe, c'est la mondialisation. Qui sont prêts à voter pour lui en dépit du fait qu'il est révulsif sur beaucoup de plans. Donc ça traduit une fureur dont il ne pourra pas ne pas tenir compte. Donc elle va être obligée, sur le plan interne, de s'occuper de ça en priorité. Ouais. Puis il y a un enthousiasme qui est pas qui est assez faible par rapport à elle. Donc elle va s'occuper de ça. Comme c'est quelqu'un de sérieux, de rationnel, ouais. Je pense qu'elle va prendre les dossiers. Je ne crois pas qu'elle soit impulsive. Et donc je ne pense pas qu'elle va corriger la politique étrangère américaine tout de suite. Au bout de 6 mois, 1 an, oui. Et c'est vrai que dans le passé, elle était par exemple pour la guerre en Irak.
Tout à fait.
Donc elle aura une tentation interventionniste. Mais je ne sais pas ce qu'elle fera en vrai dans le monde réel de maintenant.
Pour pouvoir porter, comme dit l'autre. Avant de passer la parole à Frédéric sur l'Europe, on va parler des populismes. Hein. Vous dites, vous, c'est un mot valise. Mais comment expliquez-vous son expansion partout, en Europe aux États-Unis, en Europe avec la Pologne, avec la Hongrie, avec la Grande-Bretagne, et le Philippin. Le Philippin qui traite Obama de fils de pute et qui décide de s'allier... historiquement, il était allié aux États-Unis. Il a décidé de s'allier avec la Chine.
Mais le Philippin avait fait un doigt d'honneur à l'Europe.
Le Philippin, c'est de la grossièreté. C'est pas que du populisme. Non, le populisme en général, c'est un vote de colère de gens qui se sentent abandonnés.
Ah oui, mais c'est...
Et méprisés.
Oui, mais...
Et qui se font insulter dans les médias toute la journée. Donc, ils sont encore plus contre tout le système. Et donc, ils décrochent par rapport à la mondialisation, par rapport à l'Europe, ceci, cela. Alors après, ils sont prêts à voter pour... littéralement n'importe qui, dès lors que c'est quelqu'un qui dit « je vais balayer tous les technocrates, tous les gens de Washington ou tous les Européens ». Voilà. Donc c'est un peuple abandonné qui souffre, et plus on les traite de populistes arriérés, archaïques, chauvinistes, lepénistes, fascistes, plus ils votent contre. Donc il faudrait sortir de ce piège. Mais c'est un phénomène qui est quand même très frappant. Dans les pays où il n'y a pas encore la démocratie, les gens espèrent dans la démocratie un jour. Et dans les pays démocratiques, les gens ne croient plus au fait d'être représentés. D'où la tentation d'une démocratie directe vengeresse.
Oui.
À la place des gens qui sont censés mal les représenter. Ils votent pour quelqu'un le dimanche, et le dimanche suivant, ils se disent déçus déjà. C'est très compliqué de retrouver une légitimité, un consensus. Et tout à l'heure, vous vouliez parler de François Hollande, mais c'est un cas parmi d'autres. C'est très compliqué de diriger tous les pays dans cet état d'énervement permanent. Et ça ne sert à rien de traiter ça de populisme. C'est un sous-produit, le populisme. Il faut travailler sur les causes du populisme. Oui. Donc moi, je mets en tête... ce sentiment d'abandon, qui est évidemment exploité après.
Alors,
il ne suffit pas de condamner ceux qui exploitent.
Le
populisme, il existe en Europe, on le voit. L'Europe, vous l'aimez prudemment. Vous n'êtes pas un europhile béat.
Je crois d'ailleurs que c'est... Eurolâtre.
Que vous employez.
Non, je ne suis pas européiste.
Vous allez d'ailleurs publier dans quelques jours un ouvrage qui s'appellera...
Sauver l'Europe.
Sauver l'Europe. Elle est vraiment aujourd'hui mal en point, l'Europe. Elle a besoin d'un traitement.
Oui, je pense.
C'est un remède de cheval qu'il faut
ou... Eh bien,
ils ont envie de la défendre.
Les peuples sont en train de décrocher.
Ouais.
C'est beaucoup plus grave que l'afflux des réfugiés ou des migrants.
Ceci explique parfois cela aussi.
Ceci est grave. Non, on n'explique pas, mais aggrave.
Ouais.
Vous voyez, ça attise. Donc, le fait qu'il y ait des anti-européens, le vote Brexit, les 15% en Allemagne du parti anti-euro, en Allemagne.
Ouais.
Les Polonais, tout ça. Il y a les anti-européens. Il y a ceux qui sont simplement sceptiques. Je ne suis pas contre, mais je ne suis pas convaincu. Oui, sceptiques. Et les médias ont tort de parler d'eurosceptiques à propos de ceux qui sont contre. Marine Le Pen, elle n'est pas eurosceptique, par exemple.
Elle est
anti-européenne.
Oui.
Après, vous avez...
Il nous reste peu de temps. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemblerait une Europe que les Européens pourraient aimer?
Eh bien, il faut récupérer le consensus des peuples.
Rendre du pouvoir au peuple, la rendre plus démocratique à nouveau.
Oui, alors il faut voir comment, parce que le Parlement européen est la solution? Je ne crois pas. Qu'il faudrait montrer aux Européens, au peuple européen, qui sont en train donc de se détacher de tout ça. Il n'y a plus que 15 à 20% de vrais pro-européens. Les européistes stricts, c'est 1%. Bon. Il faudrait leur montrer que l'Europe n'est pas une machine qui cannibalise, qui vampirise ce qu'ils ont gardé comme identité à laquelle ils tiennent, souveraineté, ils tiennent quand même, sécurité dont ils ont besoin. Donc même si ces demandes peuvent choquer certaines personnes, il faut dire qu'il peut y avoir une réponse raisonnable à ces demandes-là, plutôt que de les condamner. Et quand Juncker, le président de la Commission, on a vu son image il y a quelques secondes, dit « on a eu tort de réglementer à outrance, on a rendu allergique des tas de gens qui étaient normalement pro-européens », je pense qu'il met le doigt sur un vrai sujet. Donc il faut que la Commission s'occupe de choses importantes d'avenir et pas forcément de ce qu'elle prétend régenter aujourd'hui. Il faut que les gouvernements arrêtent de demander à la Commission... de surréglementer. Il faut redonner de l'espace à la démocratie au niveau national. Faut remettre le système dans le bon sens. Mais le système, comme tous les systèmes, est plutôt porté à l'immobilisme. En tout cas, le vrai danger, il est interne.
Est-ce que le Brexit va rester un cas unique?
Tant que c'est la situation actuelle, oui. Tant que la négociation s'annonce très dure, oui. Si par hasard, la Grande-Bretagne s'en sortait et rebondissait avec le nerf dont le peuple anglais, qui est exceptionnel, a montré dans des moments encore plus tragiques, là, il y a, ouais. y a une menace pour le système européen si lui-même il s'est pas rétabli. Et donc il faut que le système... Le Brexit, c'est pas qu'une aberration britannique. Hein.
Ça peut être une...
Ça traduit un malaise plus large. Donc il faut que le système européen se réforme et arrête de vouloir décider de tout à la place des gens. Il faut redonner de l'espace et de l'oxygène démocratique. Il faut que l'Europe se concentre sur des questions d'avenir. J'ai qu'un exemple à citer, c'est faire un Schengen qui marche, avec des frontières vraiment contrôlées. Ça, il y a unanimité là-dessus. Donc c'est pas perdu, c'est pas perdu.
Mais il y a du boulot. Merci Hubert Védrine, c'est la fin de cette émission.
Merci beaucoup.
Merci Roselyne.
On se retrouve.
Bonne soirée, à bientôt.
Bonsoir.